Vous en avez sûrement entendu parler depuis hier matin. Jonathan Marchand, c'est cet homme de 43 ans atteint de dystrophie musculaire qui s'est engagé devant l'Assemblée nationale. Depuis 2012, il est contraint à résider dans un CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il demande l'engagement du premier ministre François Legault pour pouvoir rester chez eux, finalement, pour que l'État puisse subvenir à ses besoins, puisse l'aider et donc qu'il puisse rester chez lui plutôt que d'être contraint dans un CHSLD. Donc, il en est à sa deuxième journée de campement, si on veut, devant l'Assemblée nationale et on a l'occasion d'aller lui parler. Monsieur Marchand, bonjour.
Oui, bonjour.
Ma première question est assez simple. Comment ça se passe les 24 dernières heures? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes vous sentez apte à continuer ce combat-là, à rester à l'Assemblée nationale dans cette cage-là pendant plusieurs jours encore?
Oui, je suis plus déterminé que jamais. Je veux dire, on peut plus continuer de m'ignorer et d'ignorer les personnes handicapées. Je veux dire, nous, on vit dans la communauté comme tout le monde. Moi, je parle pas juste pour moi, je parle pour d'autres aussi qui sont en dedans, qui ont peur de parler, parce que on s'expose à des représailles, nous. Quand on parle, il y a eu l'ONERTA, le système de santé, c'est aussi avec les résidents, ça. Donc, non, moi, je vais continuer tout le temps qu'il va falloir. Puis, ce qu'on demande, là, c'est un trajet pilote, en fait, un petit trajet pilote pour aider à peu près une cinquantaine de personnes. Puis qui va démontrer une belle façon d'organiser les services quand on donne l'assistance aux personnes handicapées. Donc, présentement, c'est très médicalisé ce qu'on a. On a les CHSLD, on a le soutien à domicile aussi, qui est très médicalisé. Nous, on veut créer une autre façon d'organiser les services, puis on appelle ça l'assistance personnelle. Ça existe déjà ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe. C'est un service qui est démédicalisé, qui est déprofessionnalisé aussi et qui mène à l'inclusion sociale des personnes handicapées. Parce que nous, on gère nous-mêmes nos services. Okay. Donc, on reçoit une partie de l'argent que ça coûte de nous garder en institution pour combler nos besoins dans la communauté. Donc, c'est moins cher, ça respecte les droits et libertés de tout le monde parce que CHSLD, c'est fondamentalement incompatible avec les droits constitutionnels des gens. Donc, t'es contraint de vivre à un endroit particulier, t'as aucun contrôle ou choix sur les services qui te sont donnés, et t'es pris là, essentiellement. C'est des prisons médicales, ces endroits-là. Et on peut réorganiser les services pour justement que tout le monde puisse rester chez eux en sécurité avec leur famille.
Ben c'est ça. Monsieur Marchand, parlez-nous un peu de votre situation parce que vous avez 43 ans, vous vivez avec une forme de dystrophie musculaire. Vous, la raison pour laquelle on vous oblige en quelque sorte à vivre en CHSLD, c'est parce que vous avez besoin d'un respirateur, de l'assistance. Décrivez-nous un peu votre situation. Comment ça se passe pour vous au CHSLD?
Ben, moi, c'est ça. Je suis atteint de dystrophie musculaire. J'utilise un respirateur fidèle avec une tracheostomie pour respirer. Puis ça fait en sorte que j'ai besoin d'assistance en continu. Oui. Je peux pas être laissé seul du tout. Et, ce que ça mène au Québec, souvent, les gens comme nous, ce qu'on nous offre, c'est soit être enfermé dans un hôpital, un CHSLD, ou l'euthanasie. Il n'y a jamais le choix de pouvoir continuer sa vie avec le soutien nécessaire pour continuer de faire partie de la communauté. Ouais.
En quelque sorte, je vous écoute, là, Monsieur Marchand, vous êtes un peu doublement prisonnier. Là. C'est-à-dire, vous êtes en quelque sorte prisonnier de votre propre corps, des contraintes de votre corps, mais en plus, prisonnier d'un établissement que vous n'avez pas choisi, qui vous est imposé.
Mais en fait, la vision du handicap qu'on a, nous, c'est pas nos corps qui sont défectueux. En fait, c'est l'environnement qui est problème. C'est le manque d'assistance personnalisée. Okay. C'est le manque d'accessibilité. C'est la discrimination à laquelle on fait face. Ça nous handicape. Ça nous fait souffrir. Mais nos handicaps ne nous font pas souffrir. C'est un mythe. C'est okay. une, c'est pas une bonne conception du handicap. Puis quand on entend, mettons, Madame Blais parler des personnes handicapées, des personnes âgées, mais elle, c'est ça, son discours. T'sais, bon, c'est des gens vulnérables, c'est des gens malades, faut s'occuper d'eux autres, faut décider à leur place. Hein, c'est faut les parquer dans des institutions. Là, c'est toxique comme discours.
Alors, vous voulez pas faire pitié, dans le fond. C'est ça. On veut pas faire pitié. Donnez-nous les outils pour qu'on puisse être autonome dans la mesure du possible. Là, qu'on puisse être chez nous. Le but, c'est pas de faire pitié puis de dire aidez-nous. Pis...
Oui, on peut s'autogérer. C'est ça qu'on veut faire. On veut se prendre en main. On veut plus être géré par des bureaucrates, par des professionnels, par l'État. Moi, c'est-à-dire, mon existence est régie minute par des fonctionnaires, par des gestionnaires, par des professionnels. Puis ça, c'est extrêmement déshumanisant. Hein, je veux dire, à un moment donné, tu deviens un objet qu'on entrepose à quelque part, puis tu meurs à petit feu, tu disparais sans laisser de traces. Puis moi, je refuse de quitter comme ça.
Vous, dans
moi,
le fond,
je vais prendre ma place dans la société.
Vous, dans le fond, ce que vous voulez, c'est avoir une certaine assistance parce que vous en avez besoin, mais, par exemple, garder votre liberté de vous alimenter quand vous le voulez, de faire votre toilette quand vous voulez, de dormir quand vous voulez, de vous réveiller quand vous voulez. C'est un peu ça, là.
Ben oui, c'est toutes les choses que tous les autres citoyens prennent pour acquis. Hein, je veux dire, mais nous, on se bat pour des avoirs de main. C'est complètement absurde quand on y pense.
Ben oui.
Il n'y a aucun avantage à faire ça aux personnes handicapées et aux personnes âgées aussi. Là.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable, Monsieur Marchand, pour dire que j'ai déjà travaillé au gouvernement. Puis un cas comme le vôtre, on disait bon, le but c'est pas de faire pitié, mais quand même ça fait appel, tu sais, à l'empathie des gens. Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Mais en même temps, le gouvernement a certaines réalités. Puis je parlais avec une source au gouvernement qui me disait ben dans un cas comme celui de Monsieur Marchand, on parle de près de 170 heures de soins à domicile. Il y a un maximum, si je me trompe pas là, déjà qui est fixé à 85 000 par année que l'État peut débourser. Là, on comprend que ça serait beaucoup plus que ça. Donc, il y a des gens qui disent on veut bien répondre aux besoins d'une personne comme Jonathan Marchand. Par contre, est-ce que le coût n'est pas trop important?
Encore là, c'est un mythe. Je veux dire, les coûts augmentent selon les besoins individuels. On ne peut pas comparer mon cas à une personne moyenne en CHSLD. Moi, là, si on compte minute par minute, combien d'assistance que j'ai en CHSLD, par qui c'est donné, hein, des infirmières surtout, là, ça coûte au-dessus de 300 000 $ de garder là. OK, avec une partie de cet argent-là, je suis retourné chez moi, engager une équipe dédiée qui vont fournir de l'assistance en continu 24 heures sur 24, avec des salaires compétitifs d'environ 20-22 $ de l'heure. Puis ça revient moins cher. Fait que, tu sais, de construire des CHSLD, ça coûte un bras et une jambe. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des services, pas des bâtisses.
Exact. Fait
que, entretenir des bâtisses, ça coûte cher aussi.
Bien, c'est ça. Là, vous me faites penser à quelque chose, M. Marchand. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que votre situation débloque? Est-ce que votre situation, dans le fond, c'est-tu un peu à cause des conventions collectives, là, que c'est lourd comme ça, puis que ça... Ça empêche l'État, par exemple, de décloisonner un petit peu les services qu'il donne aux gens qui sont dans votre situation?
Il y a plusieurs obstacles. C'est clair qu'au niveau, surtout du code des professions, hein, parce que des personnes comme moi, là, on est comme pognés pour faire affaire avec des professionnels de la santé, avec des infirmières. Parce que la loi ne permet pas à monsieur, madame, tout le monde de faire des gestes qu'on appelle protégés. Donc, ça, c'est une loi archaïque qu'on a au Québec. En Ontario, dans les années 90, eux, ils ont déréglementé ça. En Colombie-Britannique, ils ont fait pareil. Au Manitoba, ils ont fait pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais ici, ça n'a jamais été fait, ce travail-là. Fait que c'est... On est comme 30 ou... 40 ans en arrière au Québec. Fait que ça prend une volonté politique de changer ces choses-là. Ça peut changer. C'est pourquoi qu'on peut avoir du progrès, de l'innovation au Québec. Hein, ça, c'est toutes les barrières à l'innovation. Et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'il va falloir qui bouge. Là, ça n'a pas de sens.
Ouais.
C'est quoi le minimum nécessaire pour que vous mettiez fin à votre geste, à votre mouvement, votre engagement devant l'Assemblée nationale? Parce que je sais, bon, vous voulez un engagement du premier ministre, mais si c'est quelqu'un du gouvernement qui dit oui, on a un engagement clair, etc. Tu sais, est-ce que vous devez absolument rencontrer M. Legault ou s'il y a quand même un minimum,
clair,
vous n'êtes pas accepté?
Oui, mais moi, c'est clair. Je suis un gars raisonnable. Je suis quand même flexible. Mais ça me prend de quoi concret pour que je retourne en dedans. Parce que là, même moi, présentement, j'étais face à des retraisailles des gestionnaires du site de la capitale nationale. Parce qu'ils n'aiment pas ça que je parle aux médias. Et c'est rendu que je suis surveillé. C'est rendu qu'ils sont dans un climat de méfiance en mon endroit, les employés. Et ça met en péril ma vie. Parce que moi, ma vie dépend de la relation de confiance que j'ai avec les gens qui m'entourent. Fait que je suis comme pogné, là. Je ne peux pas retourner en dedans avec les mains vides. Fait que je dois attendre. Il n'y a eu aucun échange avec le bureau du premier ministre. Fait qu'on est encore à la case de roue.
Il n'y a même pas eu un appel, il n'y a même pas eu un.
Non. Moi, il y a Marie Blais qui m'a marqué ici. Elle m'a donné une carte et elle m'a dit « J'appelle cette madame-là. »
OK.
That's it.
Ouais, je sais que le cabinet du premier est assurément dans le coup là, avec le cabinet de la ministre Blais, mais reste à voir si elle prend contact
avec elle. C'est responsable de ce dossier-là. Je veux dire, elle a dit elle-même. Fait que, comme un non-sens, pourquoi elle était là si elle n'est pas responsable? C'est paniqué, disons.
En tout cas, vous avez assurément capté l'attention des médias, du public et du gouvernement aussi. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines
Bonne
heures,
chance.
Prochains jours. Bonne chance, Jonathan Marchand.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci
donc, Jonathan Marchand, qui est encore devant l'Assemblée nationale. J'ai parlé, Jérôme, avec des gens dans l'entourage du premier ministre. Puis, tu sais, je comprends qu'ils sont empathiques, ils sont humains, mais là, ils essaient de voir dans quelle mesure, réalistement, ils peuvent s'engager, par exemple, à débourser. Puis, pour avoir été au cabinet du premier ministre, c'est toujours très, très, très délicat de s'attaquer publiquement à des cas particuliers.
Ouais, et oui.
Et là, tu as la question de est-ce que le premier ministre lui parle ou non? Est-ce qu'on l'appelle ou non? Parce que sinon, ils vont dire... Puis je dis pas qu'ils devraient pas le faire. Je vais juste vous expliquer comment on réfléchit lorsqu'on est dans... C'est que tu dis, là, le message qu'on envoie, si on le fait, c'est si vous avez une cause...
Venez-vous planter devant... Il va vous rencontrer.
On va céder, puis on va... C'est très délicat.
Mais tu remarques une chose, Jonathan, puis je comprends exactement ce que tu dis, puis je comprends à 100%. Le premier ministre ne peut pas rencontrer tout le monde qui veut être rencontré par le premier ministre. On comprend ça. Sauf que, tu sais, des manifs de ce genre-là, il y en a régulièrement devant l'Assemblée nationale, mais pas en cage, pas avec une situation comme ça. Puis même nous, les médias, on fait pas des entrevues tout le temps avec tout le monde qui manifeste devant le Parlement. Sauf que là, on s'intéresse à l'histoire de Jonathan Marchand. Pourquoi on s'y intéresse? Pourquoi on a fait une entrevue? Et pourquoi je pense que le premier ministre devrait le rencontrer? C'est qu'il amène un débat qui a pas souvent été fait au Québec. Mmh. Vraiment pas souvent. C'est que, mettez-vous à sa place. Lui, il a 43 ans, il est ingénieur. Évidemment qu'il y a une perte d'autonomie reliée à sa condition, OK? On parle de dystrophie musculaire, ça y prend un respirateur. Mais le point qu'il soulève, il n'y a pas grand monde qui a soulevé ça au Québec dans l'histoire, de dire, moi, étant donné qu'on me force à vivre en CHSLD, au-delà d'avoir à vivre dans ce milieu-là qui n'est pas toujours agréable, on limite ma liberté. Je peux pas manger quand je veux. Je peux pas me laver quand je veux. Je m'endors quand eux autres décident que je vais m'endormir. Je vais me laver quand eux autres décident que je vais me laver. Ça brime ses libertés. Alors que il y a peut-être une solution qui est peut-être pas simple. OK, Jonathan, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Ça m'apparaît pas simple, la solution de lui fournir l'assistance et les moyens pour qu'il ait une assistance à domicile. Mais il soulève à tout le moins un débat hyper important, à mon avis. D'un gars de 43 ans dont la liberté est brimée. Puis, sincèrement, je pense que le premier ministre devrait prendre le temps de jaser quelques minutes avec lui. Surtout que le premier ministre... Écoute, ça fait des mois qu'il nous parle, Jonathan, des maisons des aînés, puis d'une... c'est une espèce de réforme des CHSLD au Québec. Je trouve que c'est très, très pertinent ce qu'ils amènent présentement. Là.
Souvenons-nous que le premier ministre, avec quoi une semaine d'avis, a rencontré Dominique Champagne.
Exact. Quel bon exemple. Quel bon exemple. Quel bon exemple.
Fait que même, tu sais, je pense que les auditeurs le voient, là, je suis prudent parce que je comprends les considérations gouvernementales. Tu sais, quelqu'un me dit, écoutez, on considère qu'une personne qui a 12 heures de soins par semaine est une personne à grand besoin en soins à domicile. Et on me dit que dans le cas de M. Marchand, c'est 168 heures par semaine.
C'est pas simple, c'est ça.
Donc là, bon, M. Marchand parlait de 300 000 $ qu'il considère qu'il coûte en CHSLD. Combien coûterait-il à la maison? Est-ce que c'est 300, 500, 600 000? Je l'ai pas le prix. Je l'ai demandé, puis au gouvernement, on l'avait pas. Par contre, sur le fait de le rencontrer, ben c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un comme Dominique Champagne qui a du pull, comme on dit, là, tu sais, qui a de l'influence, a réussi à rencontrer le premier ministre. Ouais. Peut-être que ça mériterait une certaine considération. Et peut-être, Jérôme, qu'il y a des tu sais, le dialogue, des fois, va amener l'identification de solutions alternatives. Tu sais, je trouve ça... Je suis pas capable de considérer, d'accepter qu'une personne de 43 ans soit contrainte à vivre en CHSLD. Y a-t-il une solution hybride qui existe? T'sais, est-ce que c'est d'autres types de maisons avec des soins particuliers? Ouais. Si on considère que pour le soin à domicile, je comprends que de façon générale, on veut vraiment favoriser, puis j'en suis, favoriser le maintien à domicile, les soins à domicile. Mais si on dit que dans certains cas, c'est pas faisable, est-ce qu'on peut avoir des ressources alternatives? T'sais, une chose est certaine.
Il y a une facture à ça aussi.
Il y a une facture et toi et moi, on n'est pas des amants des dépenses de l'État. Mais quand on dit c'est quoi la responsabilité de l'État,
c'est ça. C'est
dans des cas comme ceux-là, des gens qui ont besoin. Tu sais, la solidarité sociale, là, on parlait de solidarité cette semaine.
Mais ça, c'en est de la vraie. Là.
C'est
de la,
oui.
Moi, Jonathan, on me dit, l'État me dit, OK, Landry, on te vole la moitié de ta paye, on abuse de ce qu'il y a dans tes poches, on brime ta liberté de t'enrichir. Par contre, on a un filet social incroyable au Québec. On a le meilleur filet social au monde, puis on s'occupe des gens qui sont dans le besoin. T'sais, on me dit ça, c'est ça le deal avec l'État. Là. On me siphonne ce que je gagne durement ou ce que les auditeurs gagnent durement, parce qu'animateur de radio, c'est pas un job si éreintante que ça, on va se le dire. Il y a certains défis, mais il y a des jobs plus durs que ça. Mais vous savez ce que je veux dire? L'argent qu'on gagne durement, sueur de notre front, on nous en enlève la moitié sans gêne, mais en échange, on nous dit, parfois, on va s'occuper de notre monde, par contre. Mais quand je vois ce cas-là, je me dis, ouais, je suis pas sûr qu'on s'occupe tant que ça de notre monde, ou à la hauteur, en tout cas, de ce qu'on paye. Là.
Absolument. Alors, bref, c'est un cas qui est pas évident, puis je vous le dis, là, lorsque vous êtes en politique, lorsque vous êtes au gouvernement, c'est des dossiers qui sont pas évidents, parce que c'est très humain, et des fois, il y a des considérants qui sont pas évidents.
Mais je pense qu'il n'y a pas le choix de le rencontrer aussi à cause d'une question d'image, parce que là, la cage est devant le Parlement. De quoi il a l'air à pas le rencontrer?
Il semble bien déterminé, M. Marchand. Donc, au moins, je dirais au minimum, le commencer avec un contact avec quelqu'un du cabinet du premier ministre. Lorsque vous travaillez au cabinet du PM, déjà de prendre le téléphone, vous avez, tu sais, vous représentez le premier ministre déjà, ça a un poids au niveau de la perception. Bref, on est tout cœur avec M. Marchand, puis on lui souhaite bonne chance. Il est 11h46, on fait une pause, on revient.